Néo-propriétarisme et ordolibéralisme de Hayek à l'Union européenne. Récapitulons. L'idéologie néo-propriétariste s'appuie en ce début de XXIe siècle sur de grands récits et des institutions solides, parmi lesquels l'échec communiste, le refus pandorien de la redistribution des propriétés et un régime de libre circulation des capitaux sans régulation, sans information partagée ou fiscalité commune. Mais il faut aussi et surtout insister sur les multiples fragilités de ce régime politico-idéologique qui sont autant de forces poussant au changement et à son dépassement. L'opacité financière et la montée des inégalités compliquent considérablement la résolution du défi climatique et plus généralement conduisent à des insatisfactions sociales dont la solution passe par une plus grande transparence et une plus forte redistribution, sauf à vouloir laisser monter des tensions identitaires de plus en plus fortes. Comme tous les régimes inégalitaires, celui-ci est instable et évolutif. De façon générale, il me semble important de ne pas surestimer la cohérence interne du néo-propriétarisme et de sa matrice politico-idéologique, en particulier dans le contexte de l'Union européenne. On associe souvent l'UE à l'ordolibéralisme, doctrine selon laquelle le rôle essentiel de l'État est de garantir les conditions d'une concurrence libre et non faussée, ou encore au libéralisme constitutionnel et volontiers autoritaire de Friedrich Hayek. De fait, le contournement de la démocratie parlementaire, le gouvernement par les règles automatiques et le principe de l'unanimité des États en matière fiscale, empêchant de facto tout impôt commun, exprime une parenté évidente avec les idées ordolibérales et hayekiennes. Il me semble toutefois important de relativiser le rôle de ces influences et de ne pas exagérer la cohérence intellectuelle et politique de la construction européenne qui se situe au carrefour de multiples influences et ne suit pas un plan préconçu et déterminé à l'avance. La structuration institutionnelle et politico-idéologique de l'UE est encore largement inachevée. Elle est susceptible d'emprunter de multiples trajectoires à l'avenir, et possiblement de se recomposer en plusieurs noyaux ou cercles concentriques plus ou moins intégrés sur le plan politique, social et fiscal, en fonction des rapports de force, des crises sociopolitiques et financières et des débats qui les auront précédés. Pour voir tout ce qui différencie l'UE actuelle, ou plus généralement le monde actuel, d'un néo-propriétarisme systématique et cohérent, il n'est pas inutile de se pencher sur le traité publié par Hayek entre 1973 et 1982 sous le titre « Law, Legislation and Liberty » et qui constitue sans doute l'expression la plus claire d'un propriétarisme triomphant et assumé. Nous avons déjà rencontré Hayek au moment des débats de 1938-1940 autour du projet d'union franco-britannique et du mouvement Federal Union et au sujet de son livre « The Road to Serfdom » de 1944, dans lequel il mettait en garde contre le risque de dérive totalitaire que comportait selon lui tout projet basé sur l'illusion de la justice sociale et s'écartant des principes du libéralisme pur et dur. Il visait alors notamment les travaillistes britanniques et les sociaux-démocrates suédois de l'époque, qu'il suspectait de vouloir remettre en cause les libertés individuelles, ce qui rétrospectivement peut surprendre, surtout s'agissant de quelqu'un qui fut par la suite un soutien actif de la dictature militaire ultralibérale de Pinochet au Chili dans les années 1970 et 1980, en même temps qu'il soutenait et conseillait Thatcher au Royaume-Uni. La lecture de Law, Legislation and Liberty est instructive, car elle permet de mieux comprendre la cohérence d'ensemble. Après s'être installé à Londres en 1931, Hayek rejoint l'Université de Chicago en 1950, temple des Chicago Boys, les jeunes économistes qui allaient conseiller plus tard le dictateur chilien. Puis retourna en Europe en 1962, où il enseigna aux universités de Fribourg, cœur historique de l'ordolibéralisme, et de Salzbourg, jusqu'à sa disparition en 1992, à l'âge de 93 ans. À partir des années 1950 et 1960, il s'oriente vers la philosophie politique et légale, point d'entrée pour défendre les valeurs menacées du libéralisme économique. Dans son imposant traité de 1973-1982, Hayek exprime clairement la crainte propriétariste de toute forme de redistribution. si l'on commence à remettre en cause les droits de propriété issus du passé et à mettre la main dans l'engrenage de l'impôt progressif, alors on ne saura jamais où s'arrêter. Il attribue au Florentin Francesco Giucciardini, confronté à des propositions fiscales de ce type en 1538, la première expression claire de cette réflexion pandorienne et du refus absolu de l'impôt progressif. Affolé par les taux marginaux supérieurs à 90% appliqués aux États-Unis et au Royaume-Uni, et effrayé par la perspective d'une victoire finale du collectivisme, Hayek avait déjà proposé en 1960, dans un précédent ouvrage, d'inscrire dans les constitutions une interdiction intangible du principe même de l'impôt progressif. Selon les termes de sa proposition, le taux appliqué aux revenus les plus élevés ne devrait en aucun cas dépasser le taux moyen de recettes fiscales du pays considéré, ce qui revenait à dire que l'impôt pouvait être régressif, avec un taux plus faible au sommet que pour le reste de la population, mais en aucune façon progressif. De façon générale, Hayek est convaincu que le libéralisme a fait fausse route en acceptant au fil des 18e et 19e siècles de confier autant de pouvoirs législatifs à des assemblées parlementaires élues au détriment des droits, et en particulier des droits de propriété patiemment bâtis dans le passé. Il s'oppose au rationalisme constructiviste, qui prétend pouvoir redéfinir les droits et les relations sociales à partir de rien, et défend un rationalisme évolutionniste, basé sur le respect des droits et des relations qui préexistent aux assemblées. Il insiste notamment sur l'idée que le droit précède la législation, law precedes legislation, et que l'oubli de ce sage principe conduit presque inévitablement à la création d'une sorte de législateur suprême et à des dérives totalitaires. Dans le dernier volume de Law, Legislation and Liberty, il pousse le raisonnement plus loin et propose de refonder entièrement les principes de la démocratie parlementaire en restreignant drastiquement les pouvoirs des majorités politiques à venir. Il envisage un vaste ensemble politique fédéral fondé sur le respect absolu du droit de propriété. Des assemblées gouvernementales seraient certes élues au niveau local au suffrage universel, en excluant toutefois du droit de vote les fonctionnaires, les retraités et plus généralement toutes les personnes recevant des transferts publics. Surtout, ces assemblées auraient uniquement le pouvoir d'administrer les services étatiques au niveau local et ne pourraient en aucune façon modifier le système légal, c'est-à-dire le droit de la propriété, le droit civil et commercial ou le droit fiscal. Cette législation fondamentale et quasi sacrée devrait, selon Hayek, être fixée par une assemblée législative compétente au niveau fédéral et composée d'une façon telle qu'elle ne puisse être soumise aux caprices du suffrage universel. Selon lui, cette assemblée suprême devrait être constituée de personnes âgées d'au moins 45 ans, choisies pour 15 ans après avoir déjà fait preuve de leur capacité et de leur réussite professionnelle. Il semble hésiter sur l'opportunité de réintroduire explicitement le suffrage censitaire et opte finalement pour une étrange formule d'élection par des clubs professionnels comme les clubs Rotary, permettant à des hommes sages de se rencontrer régulièrement avant de pouvoir élire les plus sages d'entre eux à l'âge de 45 ans. La Cour suprême serait composée d'anciens membres de cette assemblée et elle disposerait de tous les pouvoirs pour arbitrer les conflits de compétences avec les assemblées gouvernementales locales et pour décréter l'état d'urgence en cas de troubles sociaux. L'objectif d'ensemble est clairement de réduire autant que possible le pouvoir du suffrage universel et de ses caprices, et en particulier de museler la jeunesse et ses lubies socialisantes, particulièrement inquiétantes aux yeux de Hayek dans le contexte des années 1970-1980, au Chili comme en Europe ou aux États-Unis. Cette proposition est intéressante, car elle illustre le point extrême du néo-propriétarisme et de ses contradictions. Au fond, le seul régime politique pleinement cohérent avec le propriétarisme est le régime censitaire, c'est-à-dire un régime où le pouvoir politique repose explicitement sur les propriétaires qui seuls ont la sagesse et la capacité de voir loin et d'établir la législation de façon responsable. Hayek fait preuve d'une certaine imagination pour aboutir au même résultat sans passer par une formulation explicitement censitaire, mais en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. On voit aussi tout ce qui sépare la construction institutionnelle et politico-idéologique européenne d'un néo-propriétarisme assumé. Les institutions de l'UE peuvent et doivent être profondément transformées, en particulier pour sortir de la règle de l'unanimité en matière fiscale. Mais pour y parvenir, il faut dépasser l'idée d'un complot ordolibéral ou néopropriétariste cohérent et invincible, et accepter de voir l'organisation actuelle de l'Europe comme un compromis instable, précaire et évolutif. En particulier, l'Union européenne est toujours à la recherche d'une forme parlementaire adaptée à son histoire. La règle de l'unanimité fiscale n'est pas satisfaisante. Les chefs d'État ou les ministres des Finances siégeant dans les conseils européens sont certes issus d'élections au suffrage universel, mais leur donner à chacun un droit de veto conduit au blocage perpétuel. Pour autant, le passage à la règle de la majorité qualifiée et le renforcement du pouvoir du Parlement européen, qui constitue la solution fédéraliste traditionnellement envisagée, ne règle pas tous les problèmes tant s'en faut. Nous y reviendrons. L'invention de la méritocratie et du néopropriétarisme. L'idéologie néopropriétariste qui s'est développée à la fin du XXe et au début du XXIe siècle est plus complexe qu'un simple retour au propriétarisme du XIXe et du début du XXe siècle. Elle est notamment liée à une idéologie méritocratique exacerbée. De façon générale, le discours méritocratique vise à glorifier les gagnants et à stigmatiser les perdants du système économique pour leur manque supposé de mérite, de vertu et de diligence. Il s'agit naturellement d'une idéologie ancienne à laquelle toutes les élites ont eu recours d'une façon ou d'une autre pour justifier leur position sous toutes les latitudes. Cette culpabilisation des plus pauvres a toutefois pris une ampleur croissante au fil de l'histoire et constitue l'un des principaux traits distinctifs du régime inégalitaire actuel. Pour Giacomo Todeschini, la figure du pauvre peu méritant a des origines que l'on peut même faire remonter jusqu'au Moyen Âge, et peut-être plus généralement à la fin de l'esclavage, du travail forcé et de la possession pure et simple des classes pauvres par les classes riches. Dès lors que le pauvre devient sujet et non seulement objet, il convient de le posséder par d'autres moyens, et en particulier dans l'ordre du discours et du mérite. Cette nouvelle vision de l'inégalité, qui devient alors courante, serait liée à une autre innovation médiévale étudiée par Todeschini, l'invention de nouvelles formes de propriété et de placement validées par la doctrine chrétienne. Autrement dit, ces deux aspects de la modernité se répondraient l'un à l'autre, à partir du moment où les règles de l'économie et de la propriété suivent des principes de justice, les pauvres deviennent en quelque sorte responsables de leur sort et il importe de le leur faire comprendre. Tant que l'ordre propriétariste reposait sur le régime trifonctionnel, puis sur le régime censitaire, le discours méritocratique jouait toutefois un rôle limité. Avec l'arrivée dans l'âge industriel et les nouvelles menaces que la lutte des classes et le suffrage universel font planer sur les élites, le besoin de justifier les différences sociales en faisant appel aux capacités individuelles devient plus prégnant. Charles Dunoyer, économiste libéral et préfet sous la monarchie de Juillet, écrivait ainsi en 1845 dans son livre intitulé « De la liberté du travail », dans lequel il s'oppose vigoureusement à toute législation sociale contraignante, « L'effet du régime industriel est de détruire les inégalités factices, mais c'est pour mieux faire ressortir les inégalités naturelles. » Pour Dunoyer, ces inégalités naturelles comprennent les différences de capacités physiques, intellectuelles et morales, et se trouvent au cœur de la nouvelle économie de l'innovation qu'il voit un peu partout autour de lui et qui fait qu'il refuse toute intervention de l'État. Les supériorités sont la source de tout ce qu'il y a de grand et d'utile. Réduisez tout à l'égalité et vous aurez tout réduit à l'inaction. Mais c'est surtout avec l'entrée dans l'âge de l'enseignement supérieur que l'idéologie méritocratique prend une ampleur décisive. En 1872, Émile Boutmy crée l'École libre des sciences politiques, Sciences Po, en lui donnant une claire mission, contrainte de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que, derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont on ne puisse pas se priver sans folie. Cette incroyable déclaration mérite d'être prise au sérieux. Elle signifie que c'est par instinct de survie que les classes élevées quittent l'oisiveté et inventent la méritocratie, faute de quoi le suffrage universel risquerait de les déposséder. Sans doute peut-on la mettre sur le compte du contexte de l'époque. La Commune de Paris vient d'être réprimée et le suffrage universel masculin est tout juste rétabli. Elle a cependant le mérite de rappeler une vérité essentielle: donner du sens aux inégalités et justifier la position des gagnants est une question d'importance vitale. L'inégalité est avant tout idéologique. Le néopropriétarisme actuel se veut d'autant plus méritocratique qu'il ne peut plus être explicitement censitaire, à la différence du propriétarisme de l'âge classique, celui du début du XIXe siècle. Dans « Les héritiers », Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron analysaient en 1964 les mécanismes de légitimation de l'ordre social à l'œuvre dans le système d'enseignement supérieur de l'époque. Sous les atours du mérite et des dons personnels, les privilèges sociaux se perpétuent, car les groupes défavorisés ne disposent pas des codes et des clés par lesquels se joue la reconnaissance. Les effectifs étudiants ont explosé, et la reconnaissance par le diplôme joue un rôle croissant dans la structuration des inégalités sociales. Mais les classes populaires en sont presque totalement exclues. Moins de 1% des fils d'ouvriers agricoles deviennent étudiants, contre 70% des fils d'industriels et 80% des fils des professions libérales. Un système explicitement ségrégationniste, comme celui qui disparaît aux États-Unis en cette même année 1964, ne ferait guère mieux. Sauf que la domination culturelle et symbolique a ceci de plus sournois qu'elle se présente comme le fruit d'un processus librement choisi où chacun a théoriquement les mêmes chances. C'est pourquoi Bourdieu et Passeron préfèrent la comparaison avec les mécanismes de reproduction de la caste des sorciers chez les Indiens Omaha, étudiés par l'anthropologue Margaret Mead, où les jeunes hommes de toutes les origines pouvaient en principe tenter leur chance. Il leur fallait alors se retirer dans la solitude, jeûner, revenir et raconter leur vision aux anciens, cela pour se voir annoncer, s'ils n'étaient pas membres des familles de l'élite, que leur vision n'était pas authentique. Cette question de l'injustice éducative et de l'hypocrisie méritocratique n'a fait que gagner en importance depuis les années 1960. L'enseignement supérieur s'est considérablement étendu, mais il est resté fortement stratifié et inégalitaire, et on ne s'est jamais posé sérieusement la question des ressources réellement allouées aux uns et aux autres, ni de la réforme des méthodes pédagogiques permettant une réelle égalité d'accès à l'éducation. Aux États-Unis, en France et dans la plupart des pays, les discours à la gloire du modèle méritocratique national sont rarement fondés sur un examen attentif des faits. Il s'agit le plus souvent de justifier les inégalités existantes, sans considération pour les échecs parfois patents du système en place et la triste réalité de la situation des classes populaires et moyennes, qui n'ont pas accès aux mêmes moyens et aux mêmes filières que les classes supérieures. Nous verrons dans la prochaine partie que l'inégalité éducative constitue l'un des principaux facteurs qui ont conduit à l'éclatement de la coalition électorale social-démocrate au cours des dernières décennies. Les divers partis socialistes, travaillistes et sociaux-démocrates ont progressivement été perçus comme de plus en plus favorables aux gagnants de la compétition socio-éducative et ont perdu le soutien dont ils bénéficiaient parmi les groupes sociaux les moins diplômés dans l'après-guerre. Il est intéressant de noter que le sociologue britannique Michael Young avait mis en garde, dès 1958, contre une évolution de cette nature. Après avoir participé à la rédaction et la mise en place de la plateforme travailliste de 1945, il s'était éloigné du Labour dans les années 1950, considérant que le parti ne renouvelait pas assez son programme, en particulier sur les questions d'éducation. Young s'inquiétait notamment de l'extrême stratification du système britannique d'enseignement secondaire. Il publia alors un étonnant récit d'anticipation intitulé « The Rise of the Meritocracy, 1870-2033, An Essay on Education and Equality ». Il imagine une société britannique et mondiale de plus en plus stratifiée en fonction des capacités cognitives, en pratique étroitement reliées aux origines sociales, quoique non systématiquement. le parti Tory, serait devenu le parti des plus hauts diplômés et aurait réussi à redonner le pouvoir à la Chambre des Lords sur la base de cette nouvelle domination des intellectuels. Le Labour serait devenu le parti des techniciens et s'affronterait aux populistes. Ces derniers regroupent les couches populaires furieuses de leur relégation socio-économique dans un monde où la science aurait décrété que seul un tiers de la population était employable. Les populistes réclament en vain l'égalité éducative et l'unification du système d'enseignement avec des « comprehensive schools », offrant enfin la même formation et les mêmes moyens à tous les jeunes Britanniques. Mais ils se heurtent au refus conjoint des Tories et des techniciens qui ont abandonné depuis longtemps toute ambition égalitaire. Le Royaume-Uni sombre finalement dans une révolution populiste en 2033. Le récit s'interrompt car le sociologue reporter qui nous livre ce témoignage périt dans les violentes émeutes qui ravagent alors le pays. Young lui-même disparut en 2002 et n'eut pas le temps de constater que son récit allait être débordé par la réalité, au moins sur un point. Dans les années 2000 et 2010, le Labour devint le premier parti des diplômés, devant les Tories. De l'illusion philanthropique à la sacralisation des milliardaires. Concluons en précisant que l'idéologie méritocratique actuelle va de pair avec un discours de glorification des entrepreneurs et des milliardaires. Cette idéologie paraît parfois sans limite. Certains semblent considérer que Bill Gates, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont inventé à eux seuls les ordinateurs, les livres, les amis. On a l'impression qu'ils ne seront jamais assez riches et que le bas peuple de la planète ne pourra jamais les remercier suffisamment pour tous leurs bienfaits. Pour mieux les défendre, on tente même de dresser des murs entre les méchants oligarques russes et les gentils entrepreneurs californiens, en feignant d'oublier tout ce qui les rapproche, des situations de quasi-monopole très favorables, des systèmes légaux et fiscaux avantageant les plus gros acteurs, des appropriations privées de ressources publiques et ainsi de suite. Les milliardaires sont tellement présents dans l'imaginaire contemporain qu'ils ont également fait une entrée remarquée dans le roman et la fiction, fort heureusement avec plus d'ironie et de distance que dans les magazines. Dans « La volonté et la fortune », publié en 2008, Carlos Fuentes dresse le tableau du capitalisme mexicain et des violences qui traversent son pays. On y croise des personnages haut en couleur, avec un président pétri de communication Coca-Cola qui n'est finalement que le piteux locataire du pouvoir politique face à celui éternel du capital, incarné par un milliardaire tout-puissant qui ressemble fort au mania des télécommunications Carlos Slim, première fortune du pays et première fortune mondiale de 2010 à 2013, devant Bill Gates. Des jeunes gens hésitent entre résignation, sexe et révolution. Ils finiront assassinés par une belle ambitieuse qui veut leur héritage et qui n'a pas besoin de l'aide d'un vautrin pour commettre son forfait, preuve s'il en est que la violence a monté d'un cran depuis 1820. La transmission patrimoniale, objet de toutes les convoitises pour ceux qui sont extérieurs au cercle familial privilégié et en même temps destructrice des personnalités individuelles pour ceux qui y appartiennent, est au cœur de la méditation du romancier. On voit aussi ici et là l'influence néfaste des gringos, ces États-Uniens qui possèdent 30% du territoire mexicain et de son capital, et rendent l'inégalité un peu plus insupportable encore. Dans L'Empire du Ciel, publié en 2016 par Tancred Voituriez, une milliardaire chinoise a une idée de génie pour changer le climat. Il suffirait de couper quelques milliers de mètres en haut de l'Himalaya pour que la mousson indienne vienne bercer la Chine et mette fin à ce méchant manteau de pollution qui a enseveli Pékin. Communistes ou pas, les milliardaires se croient tout permis, raffolent de géo-ingénierie et ne détestent rien tant que les solutions simples et rébarbatives, payer des impôts, vivre sobrement. Dans « Tout l'argent du monde », 2017, Ridley Scott met en scène G. Paul Getty, première fortune mondiale en 1973, tellement radin qu'il prend le risque que son petit-fils se fasse couper une oreille par la mafia italienne dans l'espoir d'éviter de devoir débourser une rançon trop importante, déduction fiscale comprise. Voici un milliardaire profondément mesquin et antipathique, à tel point que le spectateur des années 2010, plus habitué à assister à une célébration perpétuelle de la fortune méritée et de l'entrepreneur aimable et méritant, à longueur de magazines et de discours politiques stéréotypés, se sent un peu gêné. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer la force de l'idéologie actuelle. Il y a d'abord, comme toujours, la peur du vide. Si l'on commence à admettre l'idée que Bill, Jeff et Mark pourraient se contenter de ne posséder que 1 milliard de dollars chacun, au lieu de 300 milliards à eux trois, et qu'ils auraient sans doute mené leur vie de la même façon s'ils l'avaient su à l'avance, ce qui paraît plus que plausible, alors on craint de ne pas savoir où s'arrêter. Les expériences historiques dont nous disposons permettent pourtant de cadrer l'exercice et d'expérimenter avec méthode. Mais rien n'y fait. Certains resteront toujours convaincus qu'il est trop risqué d'ouvrir cette boîte de Pandore. Il y a aussi l'effet de la chute du communisme. Les oligarques russes ou tchèques, qui investissent dans les clubs sportifs et les médias, ne sont certes pas toujours très reluisants, mais il fallait bien sortir du soviétisme. On commence cependant à mesurer que la mainmise des milliardaires a pris des proportions inquiétantes pour les institutions démocratiques, par ailleurs menacées par la montée des inégalités et du populisme, sans même attendre les émeutes promises par Jung pour 2033. L'autre facteur important contribuant à légitimer les milliardaires est ce que l'on peut appeler l'illusion philanthropique. Autrement dit, à une époque où la taille de l'État et les prélèvements obligatoires ont atteint depuis les années 1980-1990 des niveaux inconnus dans le passé, l'idée selon laquelle la philanthropie, c'est-à-dire le financement privé et désintéressé du bien commun, devrait jouer un rôle accru, a quelque chose de naturel. De fait, à partir du moment où la puissance publique a pris une ampleur nouvelle, il est légitime que l'on demande une plus grande transparence dans l'organisation du système de prélèvements et de dépenses, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans de nombreux secteurs, comme la culture, les médias et la recherche, il peut par ailleurs être adapté d'avoir recours à une diversité de financements, publics et privés, dans le cadre de structures associatives décentralisées et participatives. Le problème est que le discours philanthropique est parfois mis au service d'une idéologie anti-État particulièrement dangereuse. C'est notamment le cas dans les pays pauvres, où le contournement de l'État par la philanthropie et parfois par l'aide au développement des pays riches, participe de sa paupérisation. Or, à l'évidence, les États des pays pauvres sont tout sauf omnipotents. Dans la plupart des cas, ils disposent de recettes fiscales extrêmement limitées, et en particulier beaucoup plus réduites que celles dont les pays riches ont disposé au cours de leur propre trajectoire de développement. Du point de vue d'un milliardaire, ou parfois aussi d'un donateur moins riche, il est certes plaisant de pouvoir définir les priorités sanitaires et éducatives d'un pays. Pour autant, rien dans l'histoire des pays riches n'indique que c'est la meilleure méthode. Le second aspect de l'illusion philanthropique est sa faible dimension participative et démocratique. En pratique, les dons sont extrêmement concentrés parmi les plus riches, qui bénéficient souvent de surcroît d'avantages fiscaux exceptionnellement importants. Cela aboutit de facto à ce que les classes populaires et moyennes subventionnent par leurs impôts les préférences des plus riches, ce qui s'apparente à une nouvelle forme de confiscation du bien public et de dérive censitaire. Un modèle fondé sur une participation égalitaire des citoyens à la définition sociale et collective du bien public, à la façon du modèle égalitaire de financement des partis politiques déjà évoqué, pourrait jouer un rôle extrêmement utile et contribuer au dépassement de la démocratie parlementaire. Avec l'égalité éducative et la diffusion de la propriété, une telle perspective fera partie des éléments pour un socialisme participatif que je présenterai dans le dernier chapitre de ce livre.